CFM spéciale élection.
Je ne fais pas du tout politique, monsieur.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, c'est la politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Bien, nous recevons en débat cette fois les deux têtes de liste d'Atout Villefranche, Éric Cantournet, et Ensemble pour Villefranche et sa communauté, Serge Roch. Nous les recevons en débat puisque nous les avons déjà reçus et ce sera diffusé très prochainement individuellement, 20 minutes chacun. Et là, c'est un débat qui va durer une heure où ils vont s'expliquer. Moi, j'ai peu à intervenir. J'ai à proposer les sujets sur lesquels, d'ailleurs, nous sommes mis d'accord auparavant. Hein. Mais c'est à eux de s'exprimer. Le tirage au sort a désigné Monsieur Cantournet pour débuter. Et notre premier sujet, que vous aviez évoqué l'un et l'autre dans nos entretiens individuels, ce sont les impôts. Les impôts vont-ils évoluer? Ont-ils augmenté? Ont-ils diminué? Monsieur Cantournet, puisque vous devez commencer.
Merci. Je crois effectivement que c'est un sujet extrêmement important, celui de la fiscalité. Pour notre part, notre engagement est clair. Nous stopperons l'augmentation des taux des impôts communaux. Et je crois qu'il faut donner un chiffre. C'est celui de la diminution de la population de Villefranche. Entre 2006 et 2011, la population a diminué de 298 habitants et il faut naturellement établir un lien avec la fiscalité, qui n'est peut-être pas la seule cause, mais qui est une cause importante. J'entends souvent des comparaisons qui sont faites avec des communes comme Rodez, Millau, etc., qui d'ailleurs ne sont pas dans la même strate que Villefranche. Mais je crois que quand on parle, par exemple, d'installation de nouveaux habitants, en particulier de jeunes ménages, ce que font ces jeunes ménages, c'est de regarder ce qui se passe autour de nous, dans les communes environnantes. Et à ce moment-là, on constate effectivement que la fiscalité est moins élevée. C'est d'ailleurs normal, Villefranche est une ville-centre, mais je crois que Villefranche a les taux de fiscalité les plus élevés, et ce sont ceux qui, ces dernières années, ont augmenté le plus vite. Donc il est indispensable de stopper cette augmentation des taux communaux. Comment ? Avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec, et je crois qu'on doit en parler tout à l'heure, une maîtrise des coûts des projets, avec également... le ciblage des investissements sur des projets qui améliorent les conditions de vie des habitants. Et puis un enjeu fondamental qu'on évoquera certainement aussi, c'est celui de la coopération intercommunale. Moi, vous avez constaté que je n'ai pas cité beaucoup de chiffres sur la fiscalité, je pourrais le faire, mais il y a un chiffre qui est important, c'est celui de la baisse de la population, et l'augmentation ces dernières années de la fiscalité n'y est pas étrangère.
Serge Roch.
Oui, bien sûr, la fiscalité, c'est un problème important. Et les socialistes auront réussi une chose, c'est de rendre l'impôt complètement impopulaire. Ce qui est bien dommage quand on défend l'intérêt public, parce que l'impôt, quand même, sert à financer tout ce qui est public, hôpitaux, écoles, routes, tout ça n'aurait pas pu se faire sans les impôts. Alors, concernant Villefranche-Jouergue, nous prenons l'engagement en 2014, si nous sommes élus, de ne pas augmenter le taux, ainsi que les années suivantes. Les taux seront gelés, en quelque sorte, sur le mandat. Parce qu'effectivement, nos concitoyens n'en peuvent plus. Alors, comparer Villefranche aux communes à côté, très franchement, c'est malhonnête intellectuellement. Quand on regarde la Cour des comptes, ceux qui ont à comparer ce qui est comparable, eh bien, Villefranche est comparé aux villes de sa strate, c'est-à-dire entre 10 000 et 20 000 habitants. Et pour les villes de notre niveau, eh bien, Villefranche est la ville où le taux des impôts locaux est le moins élevé. Il y a 31 communes de plus de 10 000 habitants en Midi-Pyrénées. Eh bien, sur les 31 communes, c'est à Villefranche que le taux d'imposition locale est le plus bas. Et si on veut se mettre au niveau des communes alentour, ça veut dire qu'il faut fermer le théâtre, il faut fermer tous les équipements publics qu'on peut avoir, le gymnase, le centre nautique, la médiathèque, etc. Parce que si la ville connaît des impôts plus chers que les communes d'à côté, c'est parce qu'elle offre des services, bien évidemment, qui n'existent pas dans les communes rurales, dont profitent d'ailleurs les citoyens qui sont à côté. Donc, il faut être clair, honnête, précis. Villefranche, dans sa strate, est la ville dont le taux d'impôt est le moins cher.
Monsieur Contournet, vous souhaitez répliquer ?
Oui, naturellement, parce que je pense que mon argumentation est tout à fait honnête. Il ne s'agit pas de fermer des services, je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit qu'il fallait stopper l'augmentation des taux des impôts communaux.
Oui, mais si vous voulez diminuer les impôts,
non,
il faudra fermer.
Je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi continuer. Je pense que Monsieur Roch a la mémoire un petit peu courte, parce que l'argumentation qu'il développait en 2001 était celle d'une fiscalité trop importante, qui était d'ailleurs, selon lui, la cause du déclin démographique. C'est pour ça qu'ensuite, lors du premier mandat, il a augmenté les taux de 12%. Donc, quelle crédibilité aujourd'hui pour un engagement sur le mandat disant on n'augmentera pas les taux des impôts communaux. Donc, voilà moi ce que je souhaite dire. Hein. Je crois, encore une fois, que les comparaisons par strate, ce sont des comparaisons faites souvent par les élus, mais sur le territoire, ce que regardent les gens, c'est la fiscalité de Villefranche et des communes environnantes. Encore une fois, il ne s'agit pas, et ce n'est pas possible, d'avoir une fiscalité identique à celle des communes environnantes, mais il s'agit aujourd'hui de tenir compte du fait que nous avons la fiscalité la plus élevée et que ces dernières années, l'augmentation a été la plus forte dans notre commune si on compare aux communes environnantes. Donc c'est simplement tenir compte de cette réalité d'une manière pragmatique et non idéologique et de renforcer, ça me paraît être un enjeu majeur, du mandat qui arrive, mais nous en reparlerons, la coopération intercommunale.
Alors effectivement, nous reparlerons de la coopération intercommunale.
Je voudrais quand même répondre, oui.
Serge Roch répondait, effectivement, parce qu'elle n'est pas indifférente aux impôts, la coopération intercommunale.
Certainement pas. Mais concernant ce qu'a dit Éric Antournet, il oublie de dire que pour le second mandat, on s'était engagé à limiter, ce qui montre combien les choses changent, le taux de progression à 12%, ce que faisait la plupart des villes, et on a fait que 9,5. Donc, on a augmenté moins que ce que l'on avait prévu, et on avait été les seuls à s'engager. Aucune autre liste, il y avait 4 listes à l'époque, aucune autre liste ne s'était engagée, et je savais bien d'ailleurs ce qu'elles feraient. Si elles avaient été élues, elles auraient dit on est obligé d'augmenter le taux des impôts, parce que vous comprenez, on a trouvé une situation tellement détériorée qu'on est obligé d'augmenter le taux des impôts. Mais il s'était bien gardé avant, Éric Antournet y compris, de faire la moindre promesse. Nous, on a fait moins que ce que nous avions prévu, et donc ceci montre la possibilité et que l'on a et la fiabilité de nos engagements, puisqu'encore une fois, lors du dernier mandat, on a été fidèles et au-delà à nos promesses.
Alors, parmi les sujets que nous avons décidé d'aborder et qui ont été abordés pendant votre campagne et dans nos entretiens individuels, je le rappelais, il y a le coût des travaux. Il y a eu un certain nombre de travaux de faits à Villefranche, hein, notamment d'aménagement de voiries internes, mais pas seulement. Je peux comprendre qu'il y avait un centre nautique, une école. Et ces coûts de travaux, si j'ai bien compris, ont finalement été supérieurs à ce qui avait été annoncé. Alors, là, je vais redonner la parole à Monsieur Contournet, puisqu'il avait émis un certain nombre de critiques, et puis Serge Roch répondra, et je mettrai éventuellement mon grain de sel, parce que le coût des travaux, ça m'intéresse toujours.
Oui, effectivement, c'est un sujet important. On pourrait citer quelques exemples de dérapage financier. Je vais en citer deux. D'abord, le groupe scolaire Pendariès, estimé à 2 millions d'euros TTC, pour être précis. On pourrait parler aussi en hors-taxe, mais vous verrez que les proportions sont les mêmes. Coût final, 4 millions d'euros TTC, plus 100%. Autre exemple, la place Notre-Dame, estimation 830 000 euros TTC, coût final 1,2 million TTC. Avec en plus, je fais une petite parenthèse, une subvention qui n'a pas été obtenue de l'État, de montant de 72 000 euros, parce que le dossier a été déposé hors délai. Mais ça, c'était une parenthèse. Je crois que, autant il peut y avoir des dépassements, parce que c'est très difficile d'avoir une estimation fiable à l'euro près, autant quand des dossiers doublent ou augmentent de 50%, je crois que ça signifie au minimum, qu'il y a une mauvaise évaluation du projet au départ. Et je crois que ce type de situation, alors on va en parler peut-être de concertation, etc. Ce type de situation n'est pas aujourd'hui acceptable.
Serge Roch, je vous laisse répondre sur. Il y a eu d'autres projets aussi qui ont fait l'objet de dépassements par rapport à ce qui était annoncé en premier lieu.
Ça, c'est quand même pas un scoop à Villefranche, ça arrive extrêmement souvent. Bon, mais Éric Antournet, bien évidemment, ne dit pas les projets qui sont entrés dans l'enveloppe, parce qu'il n'y a eu plus que ces projets-là, et concernant les couverts, par exemple, de la place de la collégiale, ils sont rentrés dans leur enveloppe, de même que toutes les rues que l'on a rénovées en Bastille, de même que les giratoires, et de même qu'un certain nombre, de même que le porche à collégial. Enfin, il y a beaucoup de projets qui sont restés dans l'enveloppe. Alors, il y a deux projets qui citent toujours, celui de l'école Pendariès, mais c'est très simple. La critique serait recevable s'il s'agissait du même projet. Or, en réalité, l'école Pendariès, elle a quasiment doublé par rapport à ce qui avait été prévu. Et c'est le résultat de la concertation avec les parents d'élèves, avec les enseignants, qui, à chaque réunion, on peut pas à la fois vouloir une politique participative, dont on nous fait des gorges chaudes, et puis refuser d'écouter les demandes des utilisateurs. Donc là, il se trouve que les utilisateurs nous ont demandé d'agrandir l'école, d'agrandir la cour, ce qui a eu un coût, de faire un gymnase, vous rendez compte, couvert. Bien sûr, on le paie pas avec quelques euros, d'agrandir des salles en sous-sol, ce qui n'était pas prévu. Et c'est vrai qu'on a accepté ce surcoût parce que je me suis dit aussi, il faut envisager l'avenir. Ces salles seront nécessaires plus tard et s'il faut les récupérer plus tard, ça va entraîner un surcoût parce qu'il va falloir tout redémonter. Alors que lorsque les travaux se font, c'est plus facile.
Ça s'appelle un changement de programme. Alors, il a été acté comment ?
Ça s'appelle un complément de programme qui, l'école dans ses volumes est restée le même, mais il y a eu des compléments. Il y a eu, en cours, parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de concertations et que les parents d'élèves nous ont demandé tous ces tous ces compléments, sachant que Pendariès est dans un site très enclavé, très compliqué, et que donc, si on n'avait pas fait cela à ce moment-là, eh bien, on n'aurait jamais pu le faire. Voilà. Et actuellement, vous savez, tout le monde trouve que c'est une très belle école. L'inspecteur d'académie est passé et m'a dit, vous avez une des plus belles écoles du département. Alors, est-ce que Éric Antournet plein l'argent qu'on a mis dans une école publique qui va servir à cette génération, mais à bien d'autres.
Formellement,
on a anticipé.
Formellement, comment ces compléments de programme ont-ils été actés, entérinés par qui ?
Bien, ils ont été entérinés au niveau de la mairie, au niveau de l'État, puisque l'État nous a bien aidés sur cette école. Hein. On a été aidés à 48%. Et les compléments de programme ont été acceptés par l'État parce que ça correspondait à des soucis concernant l'éducation nationale. Que les enfants puissent faire du sport à l'intérieur de l'école, c'est quand même pas si mal.
Sur la place de la collégiale, M. Cantournet nous parle de dépassement.
Sur la place de la collégiale, il mélange un peu tout, parce que les chiffres dont il parle, c'est les chiffres des travaux. Et quand on a parlé de 850 millions d'euros, c'est les travaux. Alors en plus, bien sûr, il y a les compléments concernant les honoraires divers d'architectes, l'éclairage qui a été prévu en supplément. Il y a eu quelques suppléments, mais c'est surtout les honoraires qui n'avaient pas été comptés au départ. Et franchement, cette place Notre-Dame, on y a mis donc 1 million et quelques. Mais c'est le prix qu'a coûté le Petit Languedoc, qu'a coûté le Guiraudet, qu'a coûté le Saint-Jean. Est-ce que pour la place centrale de Villefranche, sur laquelle il n'y avait jamais eu, jamais, vous entendez, jamais, la moindre restauration, nos prédécesseurs n'avaient pas soulevé un pavé, n'avaient pas enlevé une touffe d'herbe. Rien n'avait été fait. Rien. Si bien que, ça, que la restauration totale, on y a mis 10 ans, mais nos prédécesseurs, ils sont restés 55 ans au pouvoir. Eh bien, en 55 ans, ils n'ont pas trouvé le moment de restaurer quoi que ce soit sur la place centrale de la ville. Connaissez-vous une ville qui ne s'occupe pas de sa place centrale ?
Alors, on va laisser la parole à Serge Roch, ce qui ne va pas. Mais puisqu'on est sur les travaux, puisque vous en avez évoqué quelques-uns, on a évoqué le coût, Et puis on reviendra peut-être sur le coût pendant qu'on évoquera le résultat. Mais puisque c'est, ça fait partie un peu de votre bilan, et puis M. Cantournet le critiquera, bien sûr, je suppose. Quel a été le résultat alors de ces travaux? Vous avez expliqué que l'école, ben, elle était dénotée comme étant la plus belle au moins de l'Aveyron.
C'est l'inspecteur académique qui nous l'a dit.
Quels sont les résultats des autres travaux et je dirais leur fréquentation, le taux de satisfaction?
Eh bien, écoutez, le taux de satisfaction, on n'a aucune évaluation scientifique, mais pour l'école, il y a une augmentation du nombre d'élèves inscrits dans cette école. Et on a prévu une classe de plus pour pouvoir prévoir, on pouvait faire une classe de moins. Et après, lorsque les effectifs auraient grandi, comment on aurait accueilli les élèves? Là, on a l'école qui est toute prête.
Monsieur Cantournet.
Oui, parce que Monsieur Rogue s'est déjà beaucoup exprimé sur les travaux et que je l'ai pas encore beaucoup fait. Simplement sur l'école Pendariès, Monsieur Rock a évoqué la concertation. Enfin, la concertation, normalement, on l'a fait en amont. On double pas un projet en cours comme cela a été fait. Sur le gymnase, c'est un point intéressant. Il a été évoqué. Sur le gymnase, les associations sportives se sont étonnées, par exemple, de ne pas avoir été consultées, parce que finalement, ce gymnase, il ne peut pas être utilisé dans un autre cadre que celui scolaire, ce qui est peut-être dommage. Sur la place,
je
vous interromprai souvent moi-même. Mais simplement sur la place Notre-Dame, vous dites nos prédécesseurs, etc. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu des choses qui ont été faites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple sur la place. Et là, c'est un point de désaccord entre nous. Autant sur le pavage, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Autant sur la fontaine, voilà un point de désaccord. Pour nous, c'est très clair, ce type d'investissement, au-delà de l'aspect esthétique, chacun peut avoir son jugement sur ce plan-là, ce type d'investissement n'est pas, pour nous, prioritaire. Vous avez fait ce choix-là, on ne l'a pas partagé. D'ailleurs, j'observe que le conseil municipal, à aucun moment, n'a eu à émettre un vote spécifique sur ce dossier qui avait été intégré dans une délibération beaucoup plus large avec un certain nombre d'autres dossiers. Nous avions demandé un vote séparé. Il n'a pas eu lieu. Mais voilà un exemple de projet qui, pour nous, n'est pas prioritaire, notamment dans un contexte où l'argent public se fait de plus en plus rare. Peut-être que nous aurons l'occasion de parler de la voirie, en particulier de la voirie communale, celle qui est à la charge de la commune, où ces dernières années, et chaque ville franchoise peut le constater, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de fait. Voilà ce que je voulais dire sur ces deux exemples de travaux, à la fois le groupe Pendariès et puis la place Notre-Dame.
Alors, sur les...
Répondez sur la place Notre-Dame.
Voilà, je pense que vous allez répondre, Saint-Jacques. Et puis, j'aurais voulu qu'on évoque chacun des travaux qui a été fait durant le mandat qui vient de s'écouler, et puis que M. Cantournet réponde sur la satisfaction que je suppose vous allez exprimer.
Et c'est pas uniquement sur le bilan, hein, c'est une élection pour l'avenir, 2014-2020.
Bien entendu, mais on n'est pas au terme de notre débat.
Alors, concernant la place Notre-Dame, je voudrais poser une question à Eric Cantournet, parce que c'est important, et ça c'est l'avenir. Le statut de cette place, est-ce que, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, écrit, est-ce que donc vous allez admettre à nouveau les voitures sur cette place?
Alors, je réponds bien volontiers à cette question, parce qu'effectivement nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet. Vous-même également, mais vous avez changé de position, puisque vous aviez envoyé en août 2012 une lettre un peu solennelle à tous les Villefranchois, en sollicitant leurs réflexions en période estivale, etc., où vous disiez que les différentes fonctions de la place seraient préservées, y compris le stationnement. Et ensuite, vous l'avez finalement supprimé. Nous, notre position, elle est claire, je la répète très volontiers, on autorisera, hors période estivale, hors marché, naturellement, quand on parle du marché, on parle bien sûr du marché du jeudi, et également du marché du samedi que nous voulons développer. Donc, hors période estivale et hors marché, le stationnement sera autorisé de façon limitée, avec une rotation rapide sur la place, parce que vous savez très bien que dans tous les aménagements que vous avez faits, vous n'avez jamais proposé de solution alternative à la voiture. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que on peut limiter la place de la voiture, mais à condition d'offrir aux Villefranchois et au-delà, parce que Villefranche est une ville qui attire du monde fort heureusement tout autour de son territoire. Donc, il faut offrir des solutions alternatives. Vous ne l'avez jamais fait dans les aménagements. Chaque fois, le nombre de places a été diminué. Quand on parle de solutions alternatives, eh bien, c'est peut-être le projet qu'on avance sur la place Lescure, de doubler le parking, qui n'est pas tout à fait le même que le vôtre. Vous vous proposez à nouveau un parking souterrain déjà promis en 2001 et jamais réalisé. C'est ça. C'est la question également des navettes qu'il faut impérativement remettre à l'étude, parce qu'il y a des besoins dans ce domaine. Et donc, je le répète, concernant la place Notre-Dame, hors période estivale, hors marché, on autorisera de façon limitée le stationnement sur la place. Ça pourrait être par exemple le long des arcades du consulat. Enfin, tout ça nécessite naturellement d'être ajusté. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par période estivale? Mais tout ça, c'est aussi le fruit d'une négociation.
Je pense que Serge Roch vous réponde.
Mais il est intervenu longuement, donc moi je interviens aussi un petit peu pour dire quelle est notre position. Et c'est vrai que pour nous, la priorité en Bastide, ce sont les habitants et les commerçants. Et nous avons un point, un petit peu de divergence avec Monsieur Roch par rapport au tourisme. Pour nous, le tourisme est un plus, mais il ne peut pas se substituer aux habitants et aux commerçants. C'est un plus en particulier en période estivale.
Alors, parce qu'il a été dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de les rappeler. Il a été parlé, c'était sur votre question, Serge Roch, il a été parlé de parking sur la place Notre-Dame et du stationnement en général. Il a été parlé de l'entretien des voiries sur la commune de Villefranche, et il a été parlé d'une navette. Alors sur tous ces points...
Et d'une fontaine. N'oublions pas la fontaine, puisque je n'ai pas répondu encore.
Voilà.
Je pense avoir beaucoup de retard, donc il faut que je comble un peu mon déficit. Alors, concernant le stationnement sur la place, le limiter, vous aurez beaucoup de mal à le limiter. Il va falloir... ça sera très compliqué. Il va falloir mettre des emplacements réservés. À mon avis, ça sera impossible. Donc, c'est tout ou rien. Premièrement. Deuxièmement, vous dites que j'ai pas été fidèle à ce que je me suis engagé. Pas du tout. Je suis fidèle. La preuve, c'est que si vous êtes élu, dès le lendemain, vous pourrez remettre des voitures sur la place. Donc, ça prouve que j'ai préservé les fonctions de stationnement. Ce que j'avais dit, on préservera les fonctions de stationnement. Après, on les utilisera ou pas. Ça, c'est de la volonté des élus en place. Donc vous, dès le lendemain, vous n'aurez pas le moindre travaux à faire. La place pourra redevenir un parking du jour au lendemain par votre seule décision, sans aucun travail. Donc je suis bien fidèle à ce que j'avais dit. J'ai préservé cette fonction. Troisièmement, la fontaine. Bon. Pourquoi on a fait cette fontaine? Il faut quand même s'en expliquer. Hein. On a cherché en réalité à attirer du monde en centre-ville. On a cette difficulté-là. Notre centre-ville est certains jours bien tristouné. Et ce que l'on s'efforce de faire, c'est de créer la curiosité, de créer l'événement en centre-ville, que les Villefranchois d'abord, et les autres aient envie de fréquenter cette place. Et pour cela, il faut la libérer des voitures et créer un événement, quelque chose que l'on ne voit pas ailleurs. Et je vous assure que cette fontaine musicale qui va danser avec les plus grandes musiques du répertoire mondial, qui va pouvoir accompagner le carillon, parce que M. Cantoré parle assez peu du patrimoine, le carillon, on a un des plus beaux carillons de Midi-Pyrénées, on va le porter à 4 octaves, on va le restaurer, et la fontaine jouera avec le carillon. Spectacle unique, il n'y en aura pas d'autre en France. Donc tout ça, c'est pour attirer du monde, et puis également pour lutter contre la pollution. Parce que vous croyez qu'amener toutes les voitures au centre-ville, dans un emplacement fermé, clos ses maîtres du diesel en plein centre-ville. Et je vous assure que vous parlez de la satisfaction, les habitants du centre-ville qui sont sur la place, ils trouvent que c'est pas mal quand même de respirer l'air pur.
Vous avez été interpellé aussi sur les voiries, sur l'état des voiries de la commune.
Oui, mais attendez, laissez-moi répondre je répondrai surtout. Et sur les créations de stationnement. On a créé du stationnement. Le parking des serres, c'est nous qui l'avons créé. Hein, il y a 80 places. On a créé du stationnement. Et Villefranche reste, à l'heure actuelle, la ville où il y a le plus de stationnement gratuit. Vous n'en trouverez pas, je vous défie d'en trouver une autre. Où il y ait autant de stationnement gratuit proche du centre-ville. Gratuit ou tout comme, parce que quand vous mettez une heure de stationnement gratuit, en une heure on peut faire ses courses. Et donc, on a une grande capacité de stationnement très proche du centre-ville, inégalée dans aucune autre ville. Trouver ça nulle part, et on va encore l'améliorer en créant aussi des stationnements minutes, dont on ne parle jamais Monsieur Cantournet, le stationnement minute permettant à des clients de faire très rapidement des courses en ville. On va créer des emplacements, place Lescure, d'ailleurs en utilisant la partie inutilisée, les allées où il y a quelques bancs où je vois jamais personne, là on a la place de faire du stationnement supplémentaire, ainsi que la place Antoine de Morlion, et qui permettra donc d'augmenter les possibilités de stationnement qui sont déjà très importantes à Villefranche-Jouray.
Sur les... Oui, monsieur Cantournet.
Non, simplement une précision, monsieur Roque a parlé du parking des Ruelles, en disant que c'est sa municipalité qui l'avait créé, il parle de la deuxième partie, de l'extension du parking des Ruelles. Parking des Serres, pardon. Simplement sur les arrêts minutes, effectivement, bon, ça arrive un peu au dernier moment, j'ai envie de dire, c'est des arrêts dernière minute avant les élections. Mais il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de réflexion globale en matière de circulation et de stationnement. Et j'observe que M. Roque ne parle pas des navettes.
Les navettes, vous savez très bien, elles sont un autre programme. Mais les navettes, c'est un programme communautaire. C'est la communauté de communes qui doit porter ce dossier, et nous, on souhaite que la communauté de communes prenne de nouvelles compétences qui n'existent pas actuellement et dont on a besoin. Et les deux nouvelles compétences que l'on souhaite voir effectuées par la communauté de communes, c'est la compétence transport, qui permet effectivement de prendre en charge ces navettes et également la gare multimodale, et la compétence enseignement supérieur. Et tant que j'y suis également, la compétence santé, puisque l'un et l'autre, on veut créer des maisons de santé pluriprofessionnelles, et que ces maisons de santé sont aidées par les communautés de communes et jamais par les communes. Donc, voilà, des compétences nouvelles pour la communauté de communes, où elle pourra vraiment aider le territoire à se développer. Et c'est vrai que ces navettes sont très demandées et que c'est un projet prioritaire dans le mandat qui s'ouvre.
Alors on viendra sur la communauté de communes en fin de débat. Sur la santé de proximité, puisque Serge Roque vient d'en parler, j'avais observé quand on s'est entretenu que vous aviez un certain nombre de points d'accord là-dessus. Monsieur Cantournet.
Je crois qu'effectivement que c'est un sujet extrêmement important qui nous occupe depuis un certain temps, en particulier avec mon collègue le docteur Patrice Calmels, qui est médecin généraliste à Villefranche, puisque nous avons engagé un certain nombre de démarches, notamment auprès de l'Agence régionale de santé. Et nous avons un vrai souci à Villefranche, mais ce souci dépasse les limites communales. Et effectivement, un projet de maison de santé pluridisciplinaire doit être porté au niveau intercommunal. Là-dessus, nous n'avons pas de divergence avec Monsieur Roque. Simplement, ce qu'on constate, hein, que ce soit sur les médecins, par rapport aux médecins généralistes, par rapport aux dentistes, par rapport à certaines spécialités, c'est une diminution très très préoccupante, pour ne pas dire à certains égards inquiétante, du nombre de professionnels de santé. D'ailleurs, j'observe que quand on a rencontré l'Agence régionale de santé, ils ont été un peu étonnés qu'une ville comme Villefranche ne soit pas plus attractive par rapport aux jeunes médecins. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois que, et nous l'avons demandé, il faut obtenir le classement de Villefranche en zone médicale fragile, ce qui permet de faciliter la venue de jeunes médecins. Il y a le projet de maison de santé pluridisciplinaire qui doit se faire naturellement en concertation avec les professionnels qui doivent être d'accord pour un mode d'exercice groupé de la médecine. On parle de médecine de ville, mais je crois aussi qu'il faut se préoccuper de l'hôpital, hein, où les questions de démographie médicale peuvent se poser également. Et donc, il y a une nécessité d'anticiper sur ces questions, parce que nous allons, et nous sommes déjà à certains égards, dans une situation préoccupante. Donc, pour nous, c'est clair, c'est une priorité pour le projet 2014-2020. Et je crois que c'est un sujet qui intéresse et concerne l'ensemble des Villefranchois, et encore une fois, au-delà, avec les habitants des communes aux alentours.
Alors on constate un certain accord, c'est pas interdit, entre deux concurrents. Sur la santé, moi j'avais été frappé dans les propos que vous aviez tenus l'un et l'autre, parce que ça me paraissait assez singulier à Villefranche et assez intéressant, mais c'est mon point de vue. Hein. C'est sur le et ce que j'aurais voulu savoir, c'est où quelles assurances vous aviez de réussir d'avoir des internes.
Oui, alors sur le dossier santé, qui est un dossier capital, bien sûr à Villefranche, auquel je suis particulièrement sensible, étant médecin moi-même, on connaît une situation très 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 délicate à Villefranche au niveau de la médecine de ville. Comme l'on dit, alors que on avait une situation plutôt confortable il y a quelques années encore, et qui s'est dégradée extrêmement rapidement. C'est pour cela que j'avais pris l'initiative de plusieurs réunions en mairie. Hein, j'ai invité les médecins de la ville, et puis ensuite du bassin de santé, puisque l'agence régionale de santé résonne au niveau du bassin de santé, et pour voir avec les professionnels quels étaient leurs sentiments et quels étaient leurs projets, parce que rien ne peut se faire sans eux. L'agence régionale de santé veut bien appuyer des projets à la condition qu'ils soient portés par les professionnels, et notamment par la jeune génération qui arrive. Et l'enjeu, c'est de faire venir de nouveaux médecins à Villefranche. Donc, il y a cette maison de santé pluriprofessionnelle qui peut être très importante, quelque chose de très important, puisqu'on y associe aussi toutes les professions paramédicales, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, kinés, diététiciens, orthophonistes, c'est un monde très vaste, le monde de la santé, et ça peut être quelque chose de considérable. Donc, d'une situation difficile, on peut passer à un projet extrêmement porteur. Donc ça, il faut l'appuyer de toutes nos forces, mais en sachant que l'initiative doit venir des professionnels, que rien ne se fera s'il n'y a pas un projet porté par les professionnels. Alors, faire venir des jeunes, il y a un projet que nous on porte, que je ne vois pas dans le programme de M. Cantourné, c'est le fait de créer un internat. Un internat, les médecins sont habitués, vous le savez bien, dans les hôpitaux universitaires, à disposer d'un internat où ils se retrouvent, où ils partagent l'expérience qu'ils ont vécue. Vous savez, les médecins, c'est un métier qui est difficile, c'est pas un métier facile, et ils ont besoin de se retrouver, de partager leurs expériences, de vivre ensemble, et ils apprécient beaucoup ces lieux. Donc nous, on veut créer un internat, ce sera le premier hors CHU, hors ville universitaire, il n'y en a pas dans des villes de notre importance, et on se dit que si on a un internat, et ça nous a été confirmé par les médecins, ce sera de nature à attirer les jeunes médecins, sachant que cet internat sera ouvert aux internes qui sont déjà à l'hôpital et aux remplaçants en ville, des médecins de ville qui se retrouveront là, et que ça leur donnera l'occasion de venir à Villefranche, et ensuite, on espère en fixer un certain nombre. Cet internat est très important. Mais dans le domaine de santé, un autre projet nous tient à cœur, c'est le projet de foyer de vie pour handicapés, hein, qui est très important, 50 emplois à la clé, on porte ça depuis plus de 15 ans, c'est dans tous nos programmes, on va enfin le voir sortir de terre, ici, dans le secteur, près de Super-U, dans un terrain que la commune a mis à disposition de l'ADAPI. L'ADAPI nous dit que ce sera le plus beau terrain dont ils disposeront dans tout l'Aveyron.
Monsieur Cantourné.
Oui, sur le foyer de vie à ADAPI, c'est un projet que nous avons également soutenu, c'est un projet important.
où d'ailleurs le département sera un des principaux financeurs par rapport au prix de journée. Mais je crois effectivement qu'il y avait dans ce domaine un manque, et tout ça va pouvoir se faire aussi en complémentarité avec les ZAT de Martial, hein, les ZAT, l'ancienne appellation c'était CAT. Donc tout ça effectivement va dans le bon sens et nous l'avons soutenu. Par rapport, un dernier mot par rapport aux questions de santé, je crois effectivement la question des internes est importante. Elle fait partie, je dirais, d'un tout et d'une politique globale pour être attractif à l'égard des jeunes médecins. Mais j'observe qu'on a beaucoup parlé de médecine de ville, mais le problème peut se poser et va se poser également au niveau de l'hôpital. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche globale et complémentaire. Et d'ailleurs, nous proposons dans notre projet de négocier avec l'Agence régionale de santé un contrat local de santé. Ça serait le deuxième dans le département. Il y en a un qui vient d'être signé sur Millau. Et je crois que ça serait quelque chose d'important pour notre commune.
Vous avez tous les deux parlé d'un centre de santé ouvert aux professions médicales. Est-ce que vous êtes intéressés l'un ou l'autre à nous donner des indications ou à débattre sur sa localisation ?
Oui, alors je peux pas, moi, ne pas parler de l'hôpital. J'en ai parlé à chaque élection. Je suis issu du centre hospitalier de Villefranche où j'ai passé plus de 20 ans de ma vie. Et tout le monde, tous les Villefranchois savent l'attachement que j'ai à cet établissement qui est quand même rare pour une ville de notre importance. C'est quand même le deuxième plateau chirurgical public hors CHU. Hein ? Il n'y a que l'hôpital public de Tarbes qui opère plus que Villefranche-Loire. Donc c'est une situation extrêmement rare pour une ville de notre importance. On ne trouve jamais un hôpital aussi important. Mais c'est vrai que l'hôpital n'est pas à l'abri d'ennuis et qu'il faut naturellement veiller sur la bonne marche, veiller sur ces projets. Et nous avons, par exemple, soutenu actuellement le plus gros projet en 2014, au point de vue investissement immobilier, ce sera l'agrandissement de l'hôpital. Il y a pour 15 millions de travaux, on construit deux services, un service d'hospitalisation de jour pour la médecine et pour la chirurgie. C'est des projets que j'ai fortement soutenus. Il a fallu aller à l'ARS plaider pour avoir les financements nécessaires. Ça n'a pas toujours été facile parce que l'agence régionale n'avait pas tout à fait le même objectif. Vous savez, longtemps, l'agence régionale pensait qu'à Villefranche, il fallait faire, comme on dit, un hôpital de suite, c'est-à-dire essentiellement la gériatrie, et que tout ce qui était actif devait être traité ailleurs, et notamment à Rodez, où a été fait un très gros hôpital, et qui ne peut vivre en fait que si les autres vivotent. Et nous, on a lutté comme ça contre ce projet, et l'hôpital de Villefranche est toujours très important en matière d'activité, et c'est aussi important pour les médecins de ville. C'est un atout de plus, parce qu'un médecin en ville, il a besoin aussi de s'adosser à une structure hospitalière compétente, et donc le fait d'avoir un hôpital performant à Villefranche aidera, j'en suis persuadé, à attirer de nouveaux médecins, et il faut favoriser la coopération entre les deux formes de médecine. L'hôpital a besoin d'une médecine libérale à l'extérieur active, performante, qui soit son correspondant à l'extérieur, et les médecins libéraux ont besoin d'un hôpital performant. Donc tout ça, c'est le même combat.
Monsieur, quand on est sur l'hôpital.
Oui, non, simplement pour dire que j'ai toujours soutenu l'hôpital, et que finalement je suis d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Roch par rapport à la nécessaire coopération ville-hôpital. Je crois que c'est indispensable dans les deux sens, et que tout le monde sera gagnant, si je puis dire, et à la fois les médecins, et puis bien entendu la population, puisque c'est avant tout à elle qu'on doit penser à travers une offre de soins de qualité.
Alors c'est bien ce que j'avais indiqué quand on a commencé sur ce sujet, il y a un point d'accord. Sur les projets économiques, puisque Dieu merci, la population villefranchoise doit quand même se porter à peu près convenablement, donc on va pas passer tout le débat sur la santé de proximité. L'un d'entre vous avait le projet d'une pépinière d'entreprise et ça s'est associé à un autre projet. Et là, je voudrais vous entendre là-dessus. Monsieur Cantournet.
Je crois que le principal projet économique, c'est celui de la relocalisation et du développement de Blanc Aéro, première entreprise privée de Villefranche. On vient de parler de l'hôpital qui est le premier employeur, mais dans le domaine privé, c'est Blanc Aéro. Et là, il y a un enjeu effectivement majeur pour notre territoire, pour son avenir. Et donc c'est un dossier effectivement qu'il faut soutenir naturellement, hein. Ce que nous ferons si nous sommes élus, ce que je fais au niveau du département qui sera un des partenaires, hein. Donc c'est un dossier qui est extrêmement important sur le plan économique, important aussi parce qu'il aura des conséquences, hein, en matière d'habitat, de commerce, etc. Donc je pense qu'on mesure peut-être pas encore suffisamment toute l'importance de ce projet pour le développement de notre territoire. Donc c'est vraiment dans le domaine économique la première priorité, et c'est vrai que c'est la communauté de communes, hein, qui dispose de la compétence économique. C'est d'ailleurs la première de ces compétences, et d'ailleurs c'est elle qui est un peu à la manœuvre, si je puis dire, hein, puisque la zone d'activité de la glèbe dépend de la communauté de communes du Villefranchois. Donc c'est vraiment le dossier économique prioritaire d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire de demain, puisqu'il y aura quand même, c'est annoncé comme ça, 300 emplois à la clé, ce qui pour un territoire est quelque chose de très très important.
Serge Roch, sur cette entreprise qui se déplace, qui augmente ses capacités, elle va, je suppose, libérer des locaux, elle va ailleurs, je compte que vous aviez des projets et éventuellement des états d'âme.
Pas d'état d'âme, on peut pas avoir des états d'âme dans cette affaire, mais simplement il faut être concret et réaliste. Alors effectivement, le déménagement de l'ISI, c'est considérable. C'est actuellement considéré comme le plus gros projet industriel en Midi-Pyrénées, d'après ce qu'on nous dit. Quand on assiste aux réunions, d'après ce que disent les Toulousains, parce qu'il s'agit de 300 emplois supplémentaires qui vont s'ajouter aux 700 emplois existants, donc une entreprise de 1000 emplois peut être conçu dans quelques années, puisque on nous dit que cette entreprise pourrait ouvrir dans la glèbe dans 9 ans. Donc nous on l'a soutenu, et moi aussi au niveau du département, j'ai demandé au département d'appuyer ce déménagement, et c'est vrai que l'entreprise aura le taux de subvention maximum qu'on puisse obtenir dans ces cas-là, c'est-à-dire 15%, donc toutes les collectivités ont joué le jeu à fond, et on le comprend bien, pour un sujet de cette importance. Reste le devenir du site actuel. Pour ce qui concerne la commune de Villefranche, c'est sûr que c'est un peu la patate chaude. C'est extrêmement difficile, et puisque vous aurez là un site qui fait plus de 2 hectares, qui est un site inondable et un site pollué. Et donc c'est complet. Alors tant qu'il vit comme ça, il vit. Mais le jour où l'entreprise disparaît et où il faut lui trouver une autre vocation, aux portes de Villefranche, ne pas avoir une friche industrielle, c'est un enjeu capital pour la commune. Et cet enjeu-là, c'est à la communauté de communes à nous aider à le relever. C'est la communauté de communes qui a pris l'initiative, qui a la compétence économique. Eh bien, il faut qu'elle assume le devenir du site de Blanc Aéro actuel. Et quand je vois que le seul projet, c'est de faire un parking, mais moi, je suis pas d'accord. Qu'une partie du site puisse être un parking, pourquoi pas? Mais c'est pas un parking qui va rapporter beaucoup à Villefranche, parce que le déménagement de Blanc Aéro aura quand même des conséquences sur Villefranche, dont on parle jamais, parce qu'on veut favoriser l'affaire. Mais elle aura des conséquences. On perd une usine du centre-ville. Blanc Aéro, c'est une usine du centre-ville. Il y a des gens qui travaillent à Blanc Aéro et qui habitent dans la Bastide. J'en rencontre tous les jours. Il y a les ouvriers de Blanc Aéro, quand ils sortent, ils vont faire leurs courses dans la Bastide, dans le commerce du centre-ville. Ils vont acheter leur pain, leur cigarette, etc. Et donc, il y a un enjeu. Alors, Il faut permettre ce déménagement. L'enjeu est trop considérable. On ne peut pas passer à côté de ça. Et ils ne peuvent pas s'agrandir l'horizon. Donc, il faut, bien sûr qu'il faut qu'ils aillent à la glèbe. Mais il faut s'interroger. Alors, on a le temps. C'est dans 9 ans. On a le temps. Mais, et il faut pas se contenter de faire un parking. C'est ça, c'est la solution, je dirais, de celui qui a pas beaucoup d'imagination. Et c'est pour cela que nous, on pense qu'on pourrait créer là une pépinière d'entreprise industrielle et artisanale qui n'existe pas à Villefranche. Il y a simplement une pépinière de services actuellement dans les locaux de la communauté de communes. Il n'y a pas de pépinière industrielle ou de pépinière de artisanale. Et la partie centrale de l'usine a été fait pour résister aux crues centenales. Donc, on peut installer là des entreprises qui peuvent trouver des locaux modernes qui viennent d'être refaits. Et en tous les cas, il faut que ce site conserve une vocation économique, une vocation industrielle. C'est là-dessus que l'on se battra. C'est là-dessus qu'il faut être imaginatif. On a imaginé les solutions plus modernes, type le coworking, qui sont des espaces de travail ouverts où des artisans peuvent se réunir, trouver des espaces en commun pour travailler en commun. C'est des formes de travail nouvelles, de télétravail, également des centres d'appel téléphoniques. Il va falloir être très imaginatif là-dessus. Et la communauté de communes, dont encore une fois qui a la compétence économique et qui d'ailleurs va racheter le site, eh bien, c'est à la communauté de communes à nous aider à avoir une reconversion réussie de ce site et pas simplement une friche industrielle et un parking.
Alors je vais donner la parole à M. Cantournet, parce qu'évidemment il faut qu'il réponde sur ce projet à 9 ans. Mais ce qui est peut-être pas à 9 ans, et je vous interrogerai tous les deux là-dessus, est-ce qu'on a une idée du coût de la dépollution ? Mais je laisse d'abord M. Cantournet déjà répondre sur les propositions de M. Roch.
C'est vrai que le déménagement de Blanc à Hérault ne sera pas neutre pour la commune. Monsieur Roch semble le regretter, moi je le regrette aussi, mais au niveau communal, il y a une compétence qui s'appelle l'urbanisme. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'anticipation pour essayer de proposer de conserver sur le territoire de la commune la première entreprise villefranchoise ? Donc ça, c'est une vraie interrogation. Le PLU date maintenant d'un certain nombre d'années. Une révision avait été lancée, elle est un petit peu en sommeil. Donc, s'il y a des regrets à avoir, c'est sur le manque d'anticipation au niveau de l'urbanisme. Et peut-être que la commune aurait pu être en capacité de proposer un site sur son territoire. Mais je pense que l'essentiel, quand même, c'est que l'entreprise reste chez nous. Et puisse se développer. Concernant la reconversion du site actuel, je crois que c'est un site qui fait 2,8 hectares, qui est effectivement en zone inondable, problème de pollution. Moi, je n'ai pas d'informations sur le coût de la dépollution, puisque nous ne siégeons pas à la communauté de communes depuis 2001, d'ailleurs, du fait d'une décision de Monsieur Roch. Donc, Monsieur Roch dit ça la relève de la communauté. Peut-être qu'il donnera des précisions sur le coût de la dépollution. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que c'est un site qui est à proximité du centre-ville, qui est à proximité également de l'hôpital. Donc, il faudra que certainement voir avec l'hôpital si ça présente un intérêt pour son développement éventuel. Ça me semble être une question basique. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on est sur un site qui a une vocation économique, donc si on peut, avec les contraintes à la fois problème d'inondation, de dépollution et puis éventuellement autre, si on peut conserver une vocation économique, c'est très bien, mais on peut aussi imaginer peut-être d'autres utilisations, que ce soit par exemple, mais encore une fois, il faut regarder tout ça de près, compte tenu des contraintes, mais peut-être par rapport à des associations ou pour organiser des événements. On a évoqué, et M. Roch en parle beaucoup, hein, du projet de passerelle. Oui, M. Roch, on a dit par rapport au Telel, mais pour que les gens comprennent bien, on sait très bien, et je le sais, qu'en face de la passerelle, il y aurait plutôt le théâtre de verdure, mais je pense que le théâtre de verdure, ça parle moins que le complexe sportif du Telel. L'idée d'une passerelle piétonne et vélo, c'est de permettre une circulation entre les deux rives, et je pense que là aussi, il peut y avoir une opportunité de ce point de vue-là. Donc, je crois que les uns ou les autres Il faudra examiner tout ça d'extrêmement près avec les contraintes très fortes qui existent et effectivement d'avoir sur ce lieu une plus-value pour la ville, mais encore une fois, Monsieur Roque semble regretter le départ de Blanc Aéro, mais peut-être fallait-il anticiper au niveau de l'urbanisme.
Bien, on comprend vraiment que c'est pour dans 9 ans. Alors,
pendant là, oui, parce que c'est très important.
Serge Roque.
Oui, effectivement, on nous accuse de ne pas avoir anticipé, mais le chef d'entreprise est venu nous voir. Il est venu nous voir lorsqu'il a eu ce projet d'agrandissement. On l'a reçu. Nous a demandé un terrain sur la commune. On le lui a trouvé. Il avait aucun problème pour trouver un terrain. Mais aucun. On avait trouvé un, d'ailleurs, près de rue, avec un accès direct sur la rocade, un très beau terrain, qui semblait lui convenir. Et puis, il y a eu d'autres interventions qui sont passées par derrière. On lui a dit qu'il ferait mieux de voir avec la communauté de communes. Et il a fait avec la communauté de communes. Et bon, on peut avoir un regret, mais c'est fini. Mais je veux dire, il faut pas mettre ça sur le dos de la commune. On lui avait trouvé un terrain sur la commune qui semblait le satisfaire. Et puis, il y a eu un changement d'opinion. Un jour, on a appris que, en fait, l'agrandissement ne se ferait pas sur la commune, se ferait sur la glèbe. On en a pris acte. Moi, j'ai pas voulu dire quoi que ce soit publiquement, parce que c'est un sujet trop important et qu'il faut tout faire pour qu'il réussisse, parce que et c'est pas encore tout à fait concrétisé quand même, hein, c'est un sujet compliqué. Donc, à partir du moment où le chef d'entreprise a dit, nous, on veut aller à la glèbe, on l'a pris, on en a pris. On en a pris acte.
Alors, je voudrais quoi?
Je le répète, le devenir du site actuel, c'est quelque chose de très important et il faut que ce soit un devenir économique. Alors, la passerelle, vous m'excuserez, mais c'est pas ça qui va rapporter beaucoup à Villefranche. C'est de l'agrément, c'est agréable, c'est ludique, bien évidemment, mais ça va pas faire vivre la Bastide. Et puis, je vous redis, regardez vos dossiers de plus près que cela. La passerelle, vous ne pouvez pas construire une passerelle en zone inondable. Les piles de la passerelle, vous comprenez, il va falloir les mettre à 50 mètres de la rive. Vous avez, on a regardé le dossier. Je vous assure, regardez la loi sur l'eau. Vous ne pouvez pas implanter une passerelle sur des bords de rivières inondables, en aléa fort. Vous ne le pourrez pas. C'est interdit. Il va falloir que vous fassiez les piles à 50 mètres de part et d'autre de la rive, en zone d'aléa faible, dont vous allez faire, c'est pas une passerelle que vous allez faire, c'est un viaduc. Il faudra que les handicapés puissent y aller. Il va falloir un ascenseur pour les handicapés. Non, mais c'est très important, c'est dans le débat. Donc, cette passerelle, vous la ferez pas, c'est impossible à faire. Et de toute façon, c'est pas ça qui va résoudre
le devenir. Plus nous parlons de passerelle et moins nous parlons de
rocade. Oui, mais on va parler de tout, je suis sûr. Voilà.
On a déjà plus de 40 minutes de débat et on en a 60 en tout.
C'est intéressant, voilà.
Donc j'aurais voulu qu'on parle le terme général désenclavement, et tout le monde sait que derrière le thème principal de ce thème de désenclavement, c'est la rocade sud. Serge Roque, vous aviez la parole, on continue et on évite de... Je pense que Monsieur Cantournet, enfin, à moins que Monsieur Cantournet souhaite s'exprimer sur la rocade,
mais peut-être on était à égalité tout à l'heure.
Je ne sais pas.
Oui,
vous
êtes à égalité.
Moi, c'est comme vous voulez.
Bon, allez, Monsieur Roque, sur la rocade.
Eh bien, je vais peut-être donc interroger Monsieur Cantournet. On a le droit aussi.
Vous êtes en débat.
Ah, oui, on est en débat. Donc, Monsieur Cantournet a fait en début de campagne, je pense, la proposition. Miracle, pour résoudre ce gros problème de sécurité routière qui est énorme sur Villefranche-de-Rouergue, de pollution, de développement. Ce dossier, il nous faut le résoudre d'une façon ou d'une autre. C'est vital pour l'agglomération de Villefranche. Et donc, le projet qu'il a fait, c'est de dire, écoutez, moi, les camions, vous me direz si c'est faux, hein, les camions qui arrivent de Monteil, eh bien, je les ferai plus passer par l'avenue de la Libération, ils passeront sur la rue Ordiguet, et puis ensuite on les déviera sur l'avenue Caillé, et puis une fois qu'ils seront sur l'avenue Caillé, ils iront vers le centre-ville pour rejoindre, en contournant la ville, la Montauban, la route de Montauban. S'ils doivent aller sur Toulouse, il va bien falloir qu'ils empruntent les quais, qu'ils franchissent le pont neuf de pierre et qui tourne, les villes en choix savent commencer, parce que c'est quand même
Quel dommage que nous ne soyons pas à la télévision.
Oui, oui, on montrerait là, comment les ensembles routiers peuvent sortir de ce pont pour s'engager sur les quais. C'est extrêmement acrobatique et en tous les cas, ça va augmenter la pollution et l'insécurité dans tout le centre-ville sans résoudre, j'en ai bien peur, réellement le problème de cette déviation. Donc je voudrais lui demander s'il mettait cette
proposition. On va laisser répondre M. Cantournet et puis on verra les éventuelle proposition ensuite. Monsieur Cantournet.
Oui, je pense que
Monsieur Roque. Cheminement urbain.
Je pense que Monsieur Roque fait une présentation un petit peu caricaturale, laissant penser que ce que nous proposons serait uniquement d'interdire les poids lourds dans le sens Monteil-Villefranche sur l'avenue de la Libération. Avenue de la Libération, ceux qui connaissent Villefranche savent dans quel état elle est, notamment parce que la commune n'a pas encore réalisé la deuxième tranche de travaux de réseau pour que le département puisse refaire la couche de roulement. Et puis on sait très bien que c'est une route qui n'est pas dimensionnée pour que des poids lourds se croisent, etc. Donc la proposition qu'on fait, c'est pas une proposition miracle, c'est pas une proposition définitive qui exclut, par exemple, la déviation sud. C'est tenir compte d'une réalité aujourd'hui. Monsieur Roque, n'y a-t-il pas un problème de sécurité à Avenue de la Libération? C'est le pouvoir de police du maire, même si on est sur une route départementale. Donc, nous avons effectivement proposé d'interdire les poids lourds dans ce sens-là, j'ai envie de dire, dans l'attente de la réalisation d'une déviation sud, dont on parle depuis quelques décennies. Alors, Monsieur Roque, dans un numéro avec le président du Conseil Général, essaye de dire que moi je ne fais strictement rien, etc., etc. D'abord, je suis conseiller général depuis 3 ans. On parle de ce dossier depuis quelques décennies. L'autre jour, j'ai fait un petit saut aux archives municipales sur un dossier. J'avais besoin d'une information et que j'ai trouvé, que je donnerai peut-être tout à l'heure. Et en regardant le compte rendu, j'ai vu dans les années 90 que Monsieur Roque disait la rocade sud va être faite rapidement. C'était dans les années 90. Elle n'est toujours pas faite. Donc je crois qu'il faut être un peu sérieux sur ce type de dossier. Et si on veut que la déviation sud se fasse, je pense qu'il faut gérer ce dossier autrement. Et non pas l'instrumentaliser systématiquement à chaque campagne électorale. Où en est-on aujourd'hui sur ce dossier ? Et Monsieur Roque connaît bien la position de l'exécutif départemental, du président du Conseil Général. Je pense qu'ils sont amis politiques, en tout cas quand ils font des déplacements sur place, on le constate, puisque le conseiller général n'est pas invité. Mais ça, c'est pas très grave. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Et Monsieur Roque le sait parfaitement. Les 3 communes concernées ont délibéré. D'ailleurs, Villefranche a été la dernière à délibérer. Les 2 communes, La Rouquette-Savignac, pour ne pas les citer, ont donné un avis défavorable. Villefranche, à l'unanimité d'ailleurs, a donné un avis favorable par rapport à un tracé. Quelle est la position de l'exécutif départemental ? C'est de dire, il faut que les communes soient d'accord. Donc, aujourd'hui, on est dans cette situation. Est-ce que cette situation est tenable ? Moi je dis, il faut que le président du Conseil Général prenne une décision. À un moment donné, soit il constate que les communes ne sont pas d'accord et il dit on en reste là, soit on continue, même si tout le monde n'est pas d'accord. Et on essaye de mener un tracé à l'enquête publique. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de décision de proposer, par exemple, à la commission permanente du Conseil Général dont je suis membre ? Vous n'ignorez pas, Monsieur Roque, que je n'appartiens pas à la majorité départementale. Et donc, ce tracé, il faut que le président le propose à la commission permanente. Et donc, la vraie question, c'est celle-là, parce que c'est trop facile de dire il faut que toutes les communes soient d'accord. Ce qui veut dire qu'on donne individuellement un droit de veto à chacune.
Bon, est-ce qu'on arrivera... Bien compris.
Non, mais c'est très important. Donc, est-ce que la position de l'exécutif départemental, c'est de dire il faut que tout le monde soit d'accord, ou c'est à un moment donné de constater qu'effectivement, il y a des avis différent, mais qu'on essaye quand même d'avancer et d'aller d'aller vers la gestion publique.
Le temps, il nous reste encore rapidement, Monsieur Roque, sur ce que vient de dire Monsieur Cantournet à propos de la rocade. Puis il faudra tout de même que nous parlions de la communauté de communes.
Évidemment. Alors, écoutez, concernant donc la rocade, donc, je note que vous maintenez votre proposition. Alors, il faut savoir que la rue d'Ordiguet est incapable de soutenir du poids lourd, donc quand vous dites du jour au lendemain je vais en arrêter et les camions passeront, non, il faudra quand même refaire la route. Premièrement. Deuxièmement, les entreprises qui sont là, notamment la SACOR, n'est pas du tout d'accord pour que les camions passent devant, parce que eux, ensuite, ils ne peuvent plus sortir de leur usine. Et ben oui, mais vous
Sachant qu'essayons de rester sur la rocade.
Expliquez ça au président de la SACOR. Bon. Et puis, vous envoyez donc tous les camions avenue Keilé. Et je pense que du côté de l'hôpital et tout ça, tout le monde sera ravi de voir passer les camions sous les fenêtres. Bon, mais vous maintenez, mais il faut que les choses soient claires. Concernant ensuite la rocade sud elle-même, c'est vrai quand même qu'on est très étonné que le conseiller général, que vous êtes depuis 3 ans, donc c'est quand même 3 ans, c'est pas hier, eh bien que le conseiller général ne se prononce pas, ne dise pas, voilà, moi, c'est un sujet difficile, la rocade sud. Si c'était facile, il y aurait longtemps que ça serait fait. C'est difficile, c'est compliqué. Sur tous les plans, techniques, mais aussi certainement politiques et électorales. Eh bien, votre rôle, et même c'est le dossier le plus important que vous ayez en portefeuille. Pour le conseiller général de Villefranche, vous n'avez pas de dossier plus important que celui de la Rocade Sud. Et qu'au bout de, que depuis 3 ans, vous ne vous soyez jamais prononcé sur un tracé. La seule fois où vous êtes prononcé, c'est au niveau de la commune, c'est au sein du conseil municipal, et vous avez dit que vous le faisiez en tant que conseiller municipal. Et on ne sait toujours pas ce que vous en pensez en tant que conseiller général. Vous avez une faculté de vous dédoubler en deux, c'est merveilleux. On a un être surnaturel en face de nous, c'est bon, mais c'est bien, ça nous change de nous qui sommes des pauvres êtres humains et qui sommes uniques. Eh bien, vous ne vous êtes pas prononcé. Votre rôle, c'est de pousser ce dossier. C'est de le pousser à de toutes vos forces, et pas de dire j'attends moi de savoir ce que va dire le président. C'est à vous à le pousser. Moi j'étais dans votre rôle, j'étais conseiller général.
Vous l'avez pas fait.
Oui, je l'ai pas fait, mais j'ai fait à l'époque ce que vous disiez était à l'enquête publique le nord et le sud. Et donc j'ai prononcé ça avant l'enquête publique. Et le projet du conseil général c'était de tout faire. Et c'est vous le savez bien le commissaire enquêteur qui a recalé le sud. Donc à l'époque où je prononçais ça. Le projet était bel et bien mis, était bel et bien financé, était bel et bien prévu par le département. Et il y a eu le problème de la Rocade Nord, et c'est moi qui ai débloqué le problème de la Rocade Nord, puisqu'à ce moment-là, il devait passer dans une décharge.
Pas celui de la Sud.
Et j'ai débloqué celui du Nord, j'étais conseiller général à ce moment-là. On a fait la Rocade Nord au moment où j'étais conseiller général. Faites-en autant pour le Sud. C'est vous qui êtes conseiller général maintenant. C'est à vous à pousser ce dossier. Vous ne le faites pas et vous pénalisez. Vous pénalisez ce dossier. Et moi, je dis aux Villefranchois, ils fassent bien attention, si jamais Éric Antonnet est maire demain de Villefranche, ce qui est possible, et c'est la démocratie, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucun élu local du territoire pour défendre ce projet, puisque les autres communes n'en veulent pas. Et vous, si vous prenez la même attitude, si vous avez la même attitude en tant que maire que celle que vous avez en tant que conseiller général, vous ne défendrez pas le dossier, vous ne l'avez jamais défendu. Vous ne l'avez jamais défendu publiquement, vous vous êtes jamais mouillé, il faut se mouiller, sur ce dossier. Et croyez-le, je le regrette beaucoup, parce que, évidemment, au niveau de Rodez, ils regardent bien ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, c'est comme ça. Sur le terrain,
bon,
localement,
les
seuls à défendre en Rocade Sud, c'est bien la municipalité de Villefranche.
On va donner la parole au conseiller général.
Merci beaucoup. Ben, je pense que M. Roch n'est pas très crédible quand il dit ça. Je pense que ça ne tient pas la route. D'abord, un constat, c'est vous. Tout à fait. Vous êtes sortant. Au bout de 2 mandats, la déviation sud n'aura pas été réalisée. Vous n'aviez d'ailleurs rien prévu au niveau de l'urbanisme. D'abord, vous ne savez pas ce que je fais au Conseil général, les entretiens que je peux avoir avec les uns et les autres. Et croyez bien que sur ce dossier, vos amis politiques tiennent parfois des discours un petit peu différents. Et moi, je suis étonné que chaque fois que vous faites venir le président du Conseil général pour essayer d'être soutenu, il n'en parle jamais.
Et il est venu. Il y a eu des
Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas amené à Avenue de la Libération,
si, la dernière fois qu'il est venu.
Ah bon, mais en tout cas, on l'a pas vu.
Si, il était à Avenue de la Libération. Donc, il l'a vu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir quelques travaux d'attente, parce qu'on l'a fait voir.
Il était temps. En tout cas, moi, je constate que chaque fois qu'il vient, il n'évoque pas vraiment ce dossier. C'est très clair.
Donc, il va falloir, à un moment donné, moi je suis pas président du Conseil Général, non, je n'ai pas le pouvoir de décision, mais croyez bien...
Vous avez le pouvoir d'intervention.
Croyez bien que je l'ai fait, que je le fais.
Publiquement.
Je l'ai encore publiquement. Je l'ai fait au niveau du non, Conseil Général.
Vous avez défendu le tracé qu'on a voté en Conseil Municipal, vous l'avez défendu
mais
au sein
si,
du Conseil Général.
Si j'ai voté en Conseil Municipal, vous l'avez rappelé, c'est que je suis d'accord avec ce tracé. Mais pourquoi je me suis pas exprimé en tant que conseiller général au conseil municipal? Parce que d'abord, je respecte, un, l'institution que je représente, et deux, je respecte les autres communes du territoire. Donc je ne vois pas pourquoi, en conseil municipal de Villefranche, je m'exprimerai en tant que conseiller général.
Il va bien falloir que vous tranchiez, il va bien falloir que vous disiez aux autres communes que vous êtes pour ce tracé.
Moi, je suis favorable... Si vous me laissez parler, je suis favorable à un moment donné à ce qu'on aille au bout du dossier. Parce que la position du conseil général, du département, de l'exécutif départemental, de votre ami président du conseil général, elle n'est pas tenable parce qu'à un moment donné, dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord... Je suis pas sûr qu'on avancera beaucoup.
Comme vous voulez, ah. C'est ce que vous dites. Vous voulez pas contredire les communes à côté. Donc, ce plan-là,
on arrive quand même au terme de notre débat. Et, j'observe qu'on vient de buter sur le désaccord de communes. Or, il y a une institution qui s'appelle une communauté de communes. Et Villefranche de Rouergue sera davantage représentée désormais à la communauté de, au conseil de la communauté de communes. Donc il y a un certain nombre de changements. Et il y a cette communauté de communes. Vous avez également des débats sur les attributions de compétences à cette communauté de communes. Alors je rappelle que c'est Serge Roch qui doit conclure. Donc je donne la parole à Éric Cantournet.
C'est la parole pour la conclusion ou
non,
sur
c'est
le
la
thème.
Parole sur la communauté de D'accord. communes. Et ce sera votre dernière parole.
Ok, donc il faut que je conclue aussi.
Voilà.
Très bien. Bon, simplement, sur la communauté de communes, hein, je crois que nous avons des approches différentes avec Monsieur Roch. Quand on parle de communauté de communes, il y a effectivement Villefranche et 9 autres communes. Nous sommes dans de la coopération intercommunale. Et donc, ça veut dire que tout ça nécessite des discussions avec les autres communes, que ce soit au niveau des transferts de compétences, en particulier, ou de la mutualisation de moyens, etc. Mais je crois que l'intercommunalité, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. On sait très bien que les marges de manœuvre au niveau des communes se réduisent de plus en plus et que l'échelon qui va prendre de l'importance, c'est la communauté de communes. Donc, il faut avoir une discussion et non pas faire preuve d'arrogance à l'égard des autres communes pour faire avancer les choses au niveau de transfert de compétences. On pourra en évoquer certaines. Hein. On parlait de maison de santé, ça en est une. On peut parler également dans le domaine de, par exemple, de la culture ou du sport. Il faudrait définir un certain nombre d'équipements d'intérêt communautaire. Parce que souvent, quand on parle de transfert de compétences, on a l'impression qu'on va tout transférer. C'est pas forcément le cas. Mais tout ça nécessite des négociations entre communes et également un dialogue social avec le personnel communal par exemple qui est intéressé bien entendu dans ce type de discussion. Je sais pas si je dois conclure tout de suite ou pas parce que je sais pas le temps qui me reste mais j'ai envie de conclure.
Vous nous parliez des compétences de la communauté. Vous avez dit on déléguera certaines compétences et
oui bien sûr on peut parler
tout à fait.
Non mais on déléguera en discussion avec les autres communes. C'est pas Villefranche toute seule qui va pouvoir faire et imposer à tous les autres. Donc on peut parler de voirie par exemple, on peut parler dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, on peut parler dans le domaine de la santé. Voilà des exemples, mais qui devront être mis sur la table. Ce n'est pas, si vous voulez, comme ça aujourd'hui, qu'on peut dire demain la communauté de communes aura telle ou telle compétence. Voilà ce que je veux dire là-dessus, simplement pour peut-être pour la conclusion, parce que je ne sais pas de combien de temps je dispose. Moi, je voudrais dire que d'abord le dimanche 23 mars, il y aura un seul tour, et je crois qu'il est important de le rappeler aux Villefranchoises et aux Villefranchois, et que donc ce dimanche qui arrive, toutes les voix compteront. C'est un enjeu important pour Villefranche, pour pour également la communauté de communes, un enjeu important pour Villefranche pour son développement, un enjeu important aussi, et nous y sommes très attachés, pour les conditions de vie des habitants, un enjeu également très important par rapport à la gestion de la commune, avec la volonté d'avoir une gestion sérieuse dans le dialogue et la transparence. Et puis, je voudrais terminer en citant un chiffre, parce que M. Roch avait fait campagne en 2008, entre autres, hein, mais ça avait été beaucoup relayé par la presse, sur la question des indemnités des élus. Et voyez, lorsque je suis allé aux archives municipales, c'est pour vérifier un chiffre, parce que M. Roch dit que la commune fait des économies parce qu'ils prennent pas la totalité de l'enveloppe, etc., etc. On a l'impression que c'est par rapport aux pratiques antérieures. En réalité, jamais aucune municipalité n'a pris la totalité de l'enveloppe. J'ai ici les chiffres. En 95, l'enveloppe mensuelle des indemnités du maire et des adjoints s'élevait à 8 360,47 €. Ensuite, en 2001, c'était 9 200. En 2002, 9 300. En 2007, 9 400. Et en 2008, après avoir fait campagne sur les indemnités, augmentation de l'enveloppe de 42% qui est passée à 13 457,98 € par mois. Donc lorsque M. Roch fait campagne sur les indemnités, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est pas des économies qui sont faites par rapport aux pratiques antérieures, ce sont des économies théoriques, mais qu'il n'y a aucune différence avec les précédentes municipalités. Minutes. Mais je tenais à le dire parce que je trouve que c'est assez symbolique d'une manière de faire de la politique.
Serge Roch, sur la communauté de communes, d'abord, et puis la conclusion, et sur, bien sûr, en réponse.
Et surtout, on va commencer par les indemnités, pour évacuer ça, et on ne prend pas la totalité de l'enveloppe, on n'a jamais dit que nos prédécesseurs la prenaient.
C'est bien de le dire.
Non, on ne l'a jamais dit. On ne la prend pas, et si ça a augmenté, c'est parce qu'il y a 5 élus de plus qui touchent l'indemnité, mais le maire et les adjoints n'ont pas pris plus en 2001, qu'en 2008, c'est du même ordre. Bon, il y a eu l'inflation, mais l'enveloppe n'a pas augmenté, et je pense que dans beaucoup de villes, les maires et adjoints prennent beaucoup plus. Et c'est donc de l'argent qu'on laisse à la disposition de la commune. Alors ensuite, les autres sujets, je voudrais, mais ça sera très bref, juste pour la rocade, dire que actuellement, au niveau du Conseil général, il y a des élections, donc il faut attendre que les élections aient lieu, mais ce que veut faire le Conseil général, c'est interroger à nouveau les communes sur leur...
Tout à fait.
Ce qui est normal, sur leur position, et ensuite, le Conseil général en tirera les conclusions. Et il est évident que si le conseiller général appuie fermement un tracé, ça sera un argument important pour faire avancer le dossier. Et s'il ne le fait pas, ça pénalisera le dossier. Alors, ensuite,
concernant la communauté de communes et ses compétences.
De communes. Bon.
Avec une majorité de Villefranche-Comté
oui,
au conseil.
Voilà, pas une majorité. Près de la majorité, mais pas une majorité. Il y a deux choses dans la communauté de communes. Il y a la gouvernance et il y a les dossiers. La gouvernance. Monsieur Cantonnet a dit qu'il se présenterait comme président de la communauté de communes, quel que soit le cas de figure. C'est bien cela. Que vous soyez aux élections municipales, majoritaires ou minoritaires. Ça veut dire que s'il est minoritaire, il ruine toutes les chances de Villefranche d'avoir la présidence. Nous, on a dit, bien sûr que si. Vous savez très bien quels sont les équilibres. Bien sûr que si. Donc, nous, on a dit le contraire. Si on est minoritaire, et si M. Cantournet se présente, on lui apportera nos voix, on fera jouer la solidarité villefranchoise. Donc, je lui demande solennellement, maintenant, s'il maintient cette position, qui, encore une fois, s'il est minoritaire, ruine toutes les chances de Villefranche d'occuper cette présidence. Et je lui demande quel accord secret il peut y avoir avec M. Couronne. Est-ce qu'il y a des accords qui font et qui expliqueraient cette position qui est quand même un petit peu curieuse.
M. Cantournet.
Merci de me redonner la parole, finalement. D'abord, il n'y a aucun accord secret. Moi, vous savez, je ne suis pas dans ce genre de pratique. Il n'y a strictement aucun accord secret. Simplement, ce que je veux dire.
Venir sur votre liste, quand même.
Ma liste, elle est composée de 33 personnes.
Sur votre liste.
Moi,
ça,
je sais pas.
Ça a,
vous
été,
avez...
ça a été publié dans la presse et,
vous savez,
et jamais démenti.
Ce qui est
et jamais démenti.
J'ai d'abord un. J'ai pas l'habitude de faire des démentis parce que sinon, vous aussi, peut-être, vous pourriez en faire assez régulièrement. Mais moi, je n'en fais pas.
Ça, c'est important quand même. Et c'est précis.
Non, mais c'est pas. C'est important. C'est vous qui le dites. Moi,
bien
je suis
sûr,
pas. Je suis même. Pas à faire des démentis. Sinon, je pense qu'il faudrait en faire assez régulièrement et peut-être.
Non,
et peut-être
non vous ne
semaines.
Démentez pas. D'accord.
Non, moi, j'ai pas à démentir, on va pas démentir. Simplement, je crois qu'on, du point de vue de l'intercommunalité, vous raisonnez un peu comme à l'époque du CIVOM, où c'était plus ou moins une cooptation, etc. La donne a changé. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, c'est une élection directe. Sur le bulletin de vote qu'auront, à déposer dans l'urne les villes franchoises et les villes franchois, il y aura deux listes. La liste des 33 pour le conseil municipal et la liste pour le conseil communautaire. Et donc, effectivement, quel que soit le résultat des élections, la majorité aura un certain nombre de sièges.
Je pense que vous avez répondu à cette interpellation.
Attends, non, j'ai pas fini. Non, mais c'est important parce que si on me relance dans le débat, bon.
Oui, mais on peut déborder un peu de notre heure.
D'accord. Mais ce qui est important, c'est de voir que on a changé d'époque de ce point de vue-là. Et que la communauté de communes, aujourd'hui, c'est 35, enfin, aujourd'hui, demain, plus exactement, ça sera 35 délégués. Et, parmi les 35, je veux dire, les candidatures sont libres. C'est une élection. C'est pas une cooptation. Il appartiendra à chacun, éventuellement, de présenter ou pas sa candidature. D'ailleurs, une élection, il peut y avoir plusieurs tours. Donc
bien.
Voilà. Moi, je préjuge pas aujourd'hui, d'avance d'un résultat. Et puis ensuite, c'est un vote à bulletin secret. Donc, Monsieur Roch nous dit, la main sur le cœur, je voterai pour vous. C'est un vote à bulletin secret, donc ça ne mange pas de peine de pouvoir le
facile
dire.
C'est facile à vérifier bon. Quand il y a 35 votes.
Serge, je souhaiterais qu'on a dépassé notre temps maintenant. Donc, je souhaiterais que vous nous disiez deux mots sur les compétences que vous souhaitez voir attribuées à la communauté de communes. Deux mots, et puis que vous concluiez.
Oui, mais la question de la présidence est importante parce que c'est une vieille revendication de Villefranche
en
tant que ville-centre. Et j'avais proposé aussi une présidence tournante. Ce serait pas mal, peut-être, que ce soit tantôt les communes rurales, tantôt Villefranche, en alternance, comme ça se fait à Albi, par exemple, ou ailleurs, de façon à avoir une vraie union communautaire. Et c'est une solution. Ça peut s'envisager, ça se fait ailleurs, et c'est sans doute plus démocratique. Concernant les compétences communautaires, alors Monsieur Candournet dit on déléguera une partie du sport, une partie de la culture
à discuter.
On proposera, vous proposerez. Bon, et sauf que je vous signale que actuellement l'État souhaite que on transfère des compétences totales. Et qu'on fasse pas des petits bouts. C'est ce qui est prévu, parce que si vous voulez faire des économies, si vous en transférez que la moitié, vous ferez très peu d'économies, parce que il y a ça aussi, mutualisation, pour mutualiser, il faut que ce soit, comment dirais-je, précis et pas dans l'imprécision. Donc vous aurez du mal à transférer des morceaux de compétences. Ce sera ou le sport, totalement, ou pas du tout, et idem pour la culture. Et puis, finalement, au bout du bout, il restera pas grand-chose dans les communes. L'état civil, à ce moment-là, pourra faire des élections communales si on a à gérer l'état civil. Nous, comment on voit les choses? On est dans le même état d'esprit que Eric Antonin à ce point de vue-là. Ce sont des propositions. Et on les mettra sur la table. Et puis tout ça sera voté, accepté ou non par nos collègues. En sachant que quand même, quand on fait un transfert de compétences dans la dimension de la communauté de communes actuelle, en fait, c'est Villefranche qui transfère. Les autres communes transfèrent très peu de choses. Elles n'ont pas un service de la culture, elles n'ont pas un service des sports, etc. Donc, ou un office de tourisme. Donc, en fait, le transfert, il est surtout palpable, si je puis dire, au niveau de la commune de Villefranche. Et nous, donc, ce qu'on souhaite, c'est que, en fait, la communauté de communes prenne des nouvelles compétences. Qu'elle approfondisse la compétence économique, certes, mais qu'elle prenne des nouvelles compétences pour lesquelles elle peut apporter un plus réel au territoire. C'est donc tout ce qui concerne l'enseignement supérieur, qui est capital pour l'avenir de ce territoire. Si on pouvait faire plus d'enseignement supérieur, ça serait quand même pas mal. Et par exemple, un sujet dont vous parlez jamais, je l'ai pas vu dans vos documents, c'est l'école d'infirmière. Vous prononcez jamais l'antenne de l'école d'infirmière, vous prononcez jamais le mot. Bon, et bien voilà un sujet qui serait important à traiter, et la communauté de communes peut se charger de tout ce volet, mais ça concerne aussi l'agroalimentaire, le tourisme, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on pourrait faire un enseignement supérieur. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le transport, pour lequel, à l'évidence, c'est à la communauté de communes. La gare multimodale, c'est la gare d'un territoire qui est bien plus vaste, bien évidemment, que celui de la commune et même de la communauté de communes. Donc, c'est à la communauté de communes à assumer cette compétence, et on l'a déjà fait la proposition. Donc, ces deux compétences, plus la fibre optique, qui est quelque chose de très important également, le redéploiement de la fibre optique, il faut que ça se fasse au niveau communautaire, ça, là aussi, c'est un dossier d'avenir pour notre territoire.
Vos objectifs sur la communauté de communes sont en train de vous servir de conclusion. Donc,
mais j'arrive à la conclusion. voilà, c'était presque la menace, mais j'y résisterai quand même. Donc, je voudrais simplement, en terminant, remercier les Villefranchois qui m'ont accompagné depuis depuis un moment. Donc, je les remercie de leur soutien, de leur aide. Les élus ont fait rien sans la population, on fait rien sans nos concitoyens, et par contre, les votes qu'ils peuvent nous apporter, c'est en fait notre principale force et notre principale détermination. Mieux on est élu, et plus on est fort ensuite pour défendre les dossiers de Villefranche, qui sont des dossiers difficiles à défendre. C'est difficile d'être maire de Villefranche. C'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce qu'on est une petite ville, parce qu'on est une sous-préfecture, parce qu'il y a des villes autour qui nous font pas de cadeaux. Et donc, il faut un maire extrêmement déterminé, et d'avoir la confiance de nos concitoyens. C'est extrêmement important. C'est en réalité ce qui nous porte et ce qui nous permet d'agir. Et donc, en terminant, je veux encore une fois remercier tous nos concitoyens qui nous aident. Je veux souhaiter une longue et belle vie aux Villefranchois et à Villefranche. Vive Villefranche, quoi qu'il arrive dimanche, puis à dimanche.
C'était donc la conclusion, puisque le sort l'avait désigné pour conclure, de Serge Roch, la tête de liste Ensemble pour Villefranche et sa communauté. Et cela clôturait le débat qu'il avait avec Éric Cantournet, la tête de liste de Atout Villefranche. Merci, messieurs.
CFM spéciale élection.
Je ne suis pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, la politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.